Bien, alors, tout à l'heure, je vais, comme tous les dimanches, prononcer quelques formules de bénédiction à la fin de notre culte. Je vais donc demander à Dieu sa bénédiction avant que nous repartions vers notre vie de tous les jours. Ça m'a donné l'idée de nous demander ce que c'est qu'une bénédiction divine, ce que c'est, ce qu'on peut en attendre. Voilà, au fond, la question générale que je vais essayer de traiter devant vous ce matin. Alors, pour le savoir, il y a beaucoup de textes de bénédiction dans la Bible, naturellement, mais pour le savoir, on peut s'intéresser à un texte très connu de la Genèse, qu'on appelle en général la lutte de Jacob avec Dieu, mais qui, en réalité, est la lutte de Dieu avec Jacob. Donc, c'est Genèse 32, les versets 23 à 33. Il, c'est-à-dire Jacob, se leva cette nuit-là, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'oued, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors, un homme se battit avec lui. Vous voyez, c'est un homme qui se bat avec lui. Un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et vous voyez, il ne répond pas. Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Penuel, Jacob boitait à cause de sa cuisse. Alors, pour essayer de nous intéresser à ce texte, je vais insister sur trois points. Premièrement, le contexte général de cette lutte, d'une certaine façon planter le décor. Ensuite, les caractéristiques de cette lutte qui dure toute une nuit, tout de même toute la nuit. Troisièmement, la bénédiction suivie du changement de nom. Qu'est-ce que Jacob, vous l'avez vu, devient Israël. Et comme conclusion, eh bien, nous essaierons de voir ce que nous pouvons attendre d'une bénédiction, mais aussi qu'est-ce que ça nous confie à nous comme mission. Donc, commençons par le contexte. Isaac, fils d'Abraham, et sa femme, Rebecca, attend des jumeaux. Ésaü et Jacob, et ça commence mal, parce qu'ils se battent déjà entre eux dans le ventre de leur mère, avant leur naissance. Ésaü est le premier, Jacob le cadet, et Jacob, ça veut dire il talonne, c'est-à-dire qu'il s'était agrippé au talon d'Ésaü pour essayer de sortir le premier. Et puis non, on n'a pas de chance, c'est Ésaü qui est sorti le premier. Mais enfin, bon. Donc ils se battent depuis longtemps. Alors, tout le monde connaît l'épisode suivant, bien sûr, où Ésaü vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles parce qu'il est affamé, mais là, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'Ésaü n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais ensuite, Isaac, sentant sa mort prochaine, veut, selon la tradition, bénir son fils aîné. Mais attention, là, c'est une bénédiction humaine, ce n'est pas une bénédiction divine. Bien sûr, c'est autre chose. Alors, cette bénédiction paternelle, elle est importante. Elle est importante parce que ça intronise quand même, ça intronise celui qui est béni comme successeur du Père. Et successeur du Père, ça veut dire qu'il est le chef du clan, et donc le chef du clan doit rester au milieu des siens, bien sûr, tout en les engageant à respecter la volonté de Dieu. Donc vous voyez, c'est une double mission, rester au milieu de son clan et inviter donc ses frères à obéir à la volonté de Dieu. Alors, Rebecca, qui préfère Jacob, invente un subterfuge, passons sur les détails, et ça marche. Et ça marche, mais au prix d'un très gros mensonge, c'est-à-dire que Ésaü est évincé pour Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Isaac, qui est aveugle, parce que Isaac est vieux et qu'à l'époque, quand on est vieux, on est facilement aveugle. Donc, Isaac est aveugle et il demande, c'est au chapitre 27 à Jacob, « Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né, et Isaac le béni. » Vous voyez, ça marche. Ça marche, mais au prix d'un très gros mensonge, puisque Jacob se fait passer pour le premier-né. Donc, Isaac intronise Jacob comme dépositaire de sa mission. Et vous savez qu'ensuite, nous parlons très couramment du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas d'Ésaü. Alors que théoriquement, on aurait dû dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Alors, évidemment, Jacob est très mécontent. Pardon, excusez-moi. Ésaü est très mécontent. Et il menace de tuer Jacob. Et Jacob, au lieu de remplir la mission qu'il s'est évertué à obtenir de son père en mentant, eh bien, au lieu de remplir sa mission, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il quitte donc son clan. Il s'enfuit très loin, en dehors de la Palestine, en dehors du pays de Canaan qui a été donné à Abraham. Il s'en va à Haran, aujourd'hui en Syrie actuelle, vous voyez, c'est tout à fait au nord de la Palestine. Et il y reste pendant 20 ans. Pendant 20 ans, Jacob refuse de remplir la mission que son père lui a confiée. Alors, pourquoi? Bien sûr, c'est les conditions dans lesquelles il a obtenu cette mission qui l'empêche de le remplir. Mais le fond du problème, ce n'est pas tellement le mensonge fondateur. C'est la perception que Jacob en a. Jacob est en conflit avec lui-même. Ce qui l'empêche d'agir pendant 20 ans, c'est au fond son refus de s'accepter tel qu'il est. De s'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas parfait, quelqu'un qui est un voleur et un menteur. Et d'une certaine façon plus générale, c'est une façon d'accepter, j'allais dire, la condition humaine que nous retrouverons tout à l'heure. Accepter que toute action humaine est imparfaite. Toute action humaine est imparfaite parce que, justement, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes imparfaits. Mais est-ce que ça doit nous paralyser comme ça paralyse pendant 20 ans, Jacob? Eh bien non, la Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit, oui, bien sûr, vous n'êtes pas parfait. Oui, bien sûr, vos actions ne seront pas parfaites. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas agir dans le monde réel, dans le monde réel où vous êtes, justement. Mais, simplement, la Bible nous dit, mais pour cela, vous avez besoin de reconnaître que l'aide de Dieu vous est indispensable. Alors que, vous voyez, Jacob, pendant 20 ans, il ne l'a pas reconnu et il n'a rien fait. Alors, revenons à notre texte. Après 20 ans du refus de Jacob d'accomplir sa mission, il décide de rentrer et de tenter une première démarche. La condition, c'est de se réconcilier avec Ésaü. Et s'il est réconcilié avec Ésaü, il pourra être chef de clan, et ce chef de clan qui a comme mission d'engager les membres du clan à obéir à la volonté de Dieu. Mais, vous le voyez, Jacob prend l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative. Dieu, il a tout son temps, hein, 20 ans. C'est Jacob qui fait le premier pas. Et donc, il fait le premier pas, il prend sa famille, ses troupeaux, ses serviteurs, et il décide de descendre, de revenir en Palestine. Il descend le long de la rive est du Jourdain, et il descend à la rencontre d'Ésaü. Il est quand même un peu inquiet avec ce qu'il a fait. Il envoie des éclaireurs, et les éclaireurs lui disent « Ésaü marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Lui, vous voyez les différences de force en quelque sorte. Très inquiétant. Que faire? Comment préparer cette rencontre dont toute sa vie va dépendre? Alors, à peu près au milieu du voyage, il doit franchir un affluent du Jourdain, le Yabok, qui, à cet endroit-là, coule est-ouest. Et s'il franchit ce Yabok, eh bien, il ne sera plus très loin d'Ésaü. Donc, il lui faut préparer la rencontre. Et donc, il fait passer à toute sa semala le guet du Yabok, et il reste seul sur la rive nord, et c'est là, justement, qu'il fait une rencontre qu'il n'attendait pas. Un être, nous dit le verset 25, qu'on appelle d'abord un homme, se bat avec lui, et au verset 29, nous savons qu'il s'est battu avec Dieu. Voilà pour le décor. Maintenant, deuxième point, les caractéristiques de la lutte nocturne. Donc, Jacob choisit, là encore, il le choisit, de rester seul sur la rive nord du Yabok. Ce thème d'une solitude nécessaire. Avant un événement très important, eh bien, on en trouve d'autres exemples dans la Bible. L'un des plus connus, naturellement, c'est celui de Jésus, qui est avant d'être arrêté, et d'abord avec ses disciples, et puis il les dit « Laissez-moi seul », et donc solitude nécessaire avant une vraie rencontre. Et en effet, une rencontre ne peut être fructueuse que si, eh bien, on est capable de se présenter sans faux semblant. Et pour se présenter sans faux semblant, sans mentir comme Jacob l'avait fait, eh bien, il faut se connaître. Parce que, vous le savez comme moi, on peut tricher avec les autres, comme Jacob a triché avec Ésaü. Mais la seule personne avec laquelle on ne peut pas tricher, c'est soi-même. Donc, pour que Jacob puisse aller à la rencontre d'Ésaü, se réconcilier et remplir la mission que son père lui a confiée, il lui faut se connaître. Donc, il ne faut pas avoir peur d'affronter la liberté que donne la solitude. Parce que, et c'est vrai, lorsqu'on est seul, eh bien, on est totalement responsable de ses actes. Mais, vous le savez aussi comme moi, la liberté est la condition de la sincérité. Et la sincérité est la condition de la réussite de la rencontre entre Ésaü et Jacob, qui lui permettra de remplir sa mission. Donc, pour nous aussi, quand nous avons à faire des choix importants toute notre vie, eh bien, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Eh bien, comme la suite du texte le montre, c'est que même quand on est seul physiquement, si je puis dire, on n'est pas tout à fait seul. Comme Jacob, eh bien, s'en aperçoit assez rapidement, puisque il fait une rencontre, un homme se battit avec lui toute la nuit. Donc, Dieu se bat avec Jacob. Dieu barre la route à Jacob. Alors que théoriquement, si je puis dire, Jacob, il est descendu pour rencontrer Ésaü, se réconcilier, remplir sa mission. Alors, c'est quand même a priori curieux. Dieu voudrait-il empêcher la réconciliation entre Ésaü et Jacob? C'est pas son genre, comme on dit. De plus, les conditions du combat sont étranges. Et là, il y a un texte intéressant de Roland Barthes, vous savez, outre que c'est une être religionnaire, c'est surtout un professeur au Collège de France, qui fait remarquer que ce récit fait évidemment penser à d'autres textes de la mythologie. C'est-à-dire un héros qui doit affronter un combat, triompher, pour obtenir quelque chose. Et on a les 12 travaux d'Hercule, par exemple. Ben oui, mais Hercule, il engage le combat, il se dispute, enfin, il nettoie les écuries d'Augias, il coupe les têtes de l'hydre de Lerne, etc. Il a un peu de mal, mais enfin, il gagne assez facilement. Tandis que là, eh bien, justement, on n'est pas du tout dans les conditions de la mythologie grecque. C'est-à-dire que le héros qui engage le combat, ce n'est pas Jacob, c'est Dieu qui combat. Et c'est Dieu qui combat pour obtenir quelque chose de Jacob, pas l'inverse. Deuxième surprise, Dieu ne l'emporte pas. Il se bat toute la nuit, et je cite le verset 26, « Voyant qu'il ne pouvait l'emporter, il se résout à utiliser un coup spécifique à l'intérieur de la cuisse. » Et ensuite, Jacob moite. Alors, évidemment, ce n'est pas un coup interdit. Dieu, lui, ne triche pas. Mais c'est un coup difficile, très difficile à exécuter. Et c'est l'exemple que prend Roland Barthes, c'est un coup de Jarnac, du nom bien connu du combat de 1547 entre le baron de Jarnac et François de Vivonne. Et après un coup très difficile, mais autorisé, eh bien, le baron de Jarnac tue François de Vivonne. Bon. Eh bien, nouvelle surprise. Vous voyez, à la différence des mythologies classiques, cela ne suffit pas. En dépit du coup de Jarnac de Dieu, eh bien, Dieu ne l'emporte pas. Alors que le baron de Jarnac, lui, il l'avait emporté. Jacob n'est pas vaincu. Jacob est bloqué. Il boite, il ne peut plus l'emporter. Mais comme il est bloqué, eh bien, il s'agrippe à Dieu. Et c'est lui qui bloque Dieu à son tour. C'est le faible qui triomphe du fort, mais qui en échange est marqué toute sa vie. Et Dieu doit lui demander, presque le supplier, de le laisser partir. Ce que Jacob accepte à condition de recevoir sa bénédiction. On arrive donc maintenant au troisième point, la bénédiction et le changement de nom, c'est-à-dire que Jacob devient un autre homme. Il devient Israël. Donc Jacob, si on revient au texte, était resté seul sur la rive nord du Yabok. Il doit méditer sur sa trahison, mais ce n'est pas simple de se reconnaître comme un menteur et un voleur. Pas simple. Mais c'est aussi la condition, car vous savez que pour être pardonné, il faut demander pardon. Et pour Jacob, eh bien, il s'agit de reconnaître la vérité. La vérité, c'est-à-dire qu'il est Jacob et qu'il n'est pas Ésaü. Sinon, il ne pourra pas remplir sa mission. Donc, si Dieu barre la route à Jacob, c'est qu'il veut tout simplement que Jacob dise la vérité. Je suis Jacob et non pas Ésaü. C'est difficile. Dieu a beaucoup de mal à l'obtenir, ça dure toute la nuit, mais au fond, dans cette nuit de lutte, eh bien, Dieu amène Jacob à prendre conscience de ses faiblesses, c'est-à-dire qu'il le révèle à lui-même. Et cela le change, si bien que désormais, il peut dire la vérité. Mais cela lui a montré que pour avoir un avenir, pour remplir sa mission, il a besoin de l'aide de Dieu. Car seule la bénédiction de Dieu pouvait mettre fin au combat entre Dieu et Jacob, de même que ça mettra fin au combat entre Ésaü et Jacob. Et à la différence de la bénédiction volée de Jacob à son père, il en était résulté une catastrophe, cette fois, eh bien, la bénédiction se révèle tout à fait bénéfique. Jacob ne ment pas. Verset 29, Dieu dit à Jacob, « Quel est ton nom ?» Comme s'il ne le savait pas. Ah si, il le sait, bien sûr. Mais il veut qu'ils disent la vérité. Donc, cette lutte qui dure longtemps, qui est une certaine forme de lutte de Jacob avec sa conscience, eh bien, quand il se présente tel qu'il est, tricheur, voleur, etc., eh bien, Dieu l'accueille tel qu'il est. Dieu l'accueille tel qu'il est. Comme le père de la parabole de la fils prodigue. Vous savez, la parabole de la fils prodigue, ben en fait, ce n'est pas le fils qui est prodigue, c'est le père. C'est le père prodigue. Père prodigue de son amour. Hein, si on lit l'évangile de Luc, par exemple, ce n'est pas le père, ce n'est pas le fils qui implore le pardon de son père. C'est l'inverse. Hein, Luc, chapitre 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Mais c'était tellement étonnant qu'on a tous un peu en tête le tableau de Rembrandt où on voit le fils à genoux devant son père, qui demande pardon à son père. Mais ce n'est pas le texte biblique. Mais au contraire, c'est le père qui court vers son fils. Et vous le voyez, eh bien, comme Jacob dit « Je suis Jacob », Dieu le bénit, eh bien, ça se révèle bénéfique tout de suite, immédiatement après, chapitre 33. À peine Dieu parti, le jour se lève et le texte nous dit « Jacob leva les yeux, vit arriver Ésaü avec 400 hommes. » Et nouvelle surprise, exactement comme dans le texte du fils prodigue, eh bien c'est Ésaü qui fait le premier pas. Le texte nous dit « C'est Ésaü courut à sa rencontre, il l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. » Exactement. La même formule que dans la parabole du fils prodigue. Et évidemment, c'est l'inverse. Hein. C'est Luc qui a repris, parce que clairement, Luc reprend le texte de l'Ancien Testament. Et au fond, ça fait penser à cette formule de Jésus dans l'évangile de Jean, « La vérité vous rendra libre ». En effet, Jacob était prisonnier de ses mensonges, mais depuis que Dieu l'a amené à dire la vérité, il est devenu libre. Au contact de la vérité, de ce qu'il est devant Dieu, il est libéré de son rôle de menteur, de tricheur, de voleur, mais pas pour rien, pour vivre une vie nouvelle, comme l'indique le changement de nom, qui est un changement d'identité. En effet, parce que Jacob accepte de dire « Je suis Jacob », Dieu l'accueille comme un père accueille son enfant. Et Dieu le manifeste en lui donnant un nouveau nom, mais pas n'importe quel nom, Israël. Verset 29, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Israël, ça veut dire « il lutte avec Dieu ». Mais ce qui est tout à fait caractéristique, c'est que ce nouveau nom incorpore elle. Elle de Elohim, qui vous le savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a deux noms, il a Elohim ou Yahvé. Eh bien, ce elle, donc, il l'incorpore au nouveau nom. Et ce elle, on le retrouve dès le verset 20 du chapitre 33. Après la réconciliation, Jacob s'installe à Sichem, c'est-à-dire il s'installe, il est revenu dans son clan. Il va pouvoir devenir un chef de clan et il dresse un autel qu'il appelle El Eloé Israël, c'est-à-dire El, Dieu d'Israël. Donc si Dieu lui donne un nouveau nom qui contient le sien propre, qui contient El, cela signifie qu'il l'adopte. Cela signifie qu'il le reconnaît comme son enfant. Comme quand un enfant naît, s'il donne, le père lui donne son nom, c'est qu'il le reconnaît comme son fils. Donc, Dieu l'accueille tel qu'il est, malgré son passé, qu'il ne lui reproche pas. Hein, comme dans bien d'autres passages de la Bible, Dieu ne ressasse pas le passé. La Bible et l'Évangile, c'est l'avenir. C'est un avenir différent du passé, certes, mais c'est l'avenir. Un avenir fondé sur la vérité. Tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu l'as emporté, verset 29. Cela signifie... Dieu t'a demandé quelque chose, la lutte a été rude, toute une nuit, mais avec l'aide de Dieu, tu as réussi à triompher, non pas de Dieu, tu Tu as réussi à triompher de ton passé. Tu es donc devenu un autre homme, mais souviens-toi bien que dans ta conversion, l'aide de Dieu a été fondamentale, comme ton nouveau nom le montre, puisqu'il incorpore, elle, le nom de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Voilà ce que nous dit ce texte. De plus, ce n'est pas à sens unique. C'est une alliance. Parce que si d'un côté, il accepte de s'appeler désormais Israël, l'ancien Jacob reconnaît donc qu'il a eu besoin de l'aide de Dieu et qu'il s'engage à remplir sa mission, donc engager les enfants, les descendants d'Abraham et d'Isaac à respecter la volonté divine. De son côté, le changement de nom indique que Dieu lui aussi s'engage. Dieu promet à Jacob Israël qu'il pourra compter sur lui s'il lui demande, comme Jacob a demandé la bénédiction à Dieu pour mettre fin à la lutte. Et vous voyez, ce type d'alliance, on en a un autre exemple au début de la Genèse, au chapitre 12, qui présente un autre changement de nom, avec incorporation d'une partie du nom de Dieu dans le nouveau nom à quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse. Genèse 12, Dieu demande à un certain Abraham, on a tous appris ça au catéchisme, de conclure une alliance avec lui. Et cette alliance, c'est de quitter Ur en Chaldée, de quitter la terre de ses ancêtres, de s'installer dans un pays qu'il ne connaît pas, mais que Dieu lui montrera, et que s'il le fait, Dieu lui donnera une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et comme Abraham a obéi, Dieu lui dit, chapitre 17, « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham. » Donc, vous voyez, à Abraham, on ajoute une partie de l'autre nom par lequel Dieu est désigné dans l'Ancien Testament, Yahvé, qui devient Abraham, comme Jacob devient Israël, qui incorpore, elle, d'Élohim. Donc, en donnant à Jacob le nom d'Israël, Dieu lui rappelle que lui aussi Dieu s'engage et que Jacob, Israël, pourra compter sur lui, comme l'a fait Abraham, devenu Abraham. Et ça va même plus loin, parce que vous savez, la Bible, c'est inépuisable, si je puis dire. Mais rassurez-vous, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Mais, la Bible est inépuisable parce que quand on voit la suite du texte, on s'aperçoit que, il continue à appeler Jacob deux fois plus qu'il ne l'appelle Israël. Mais ça montre, souvent que ce n'est pas facile de marcher dans les voies de Dieu. Et que même quand on a été béni par Dieu, comme Jacob, cela ne garantit pas qu'on sera capable de faire sa volonté. On peut redevenir Jacob le menteur et non pas l'Israël qui dit la vérité. Et que, à l'image de Jacob, nous aussi, nous restons faibles. Nous pouvons toujours retrouver nos ornières intérieures. Dieu n'agit pas à notre place. Nous sommes responsables de nos actes. Et d'ailleurs, cette question de nom ne s'arrête pas là, là encore, parce que Jacob demande à Dieu, verset 30, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Et, nouvelle surprise, Dieu refuse. Pourquoi Dieu refuse-t-il de dire son nom? Bon, évidemment, il y a plusieurs explications possibles, sans entrer dans les détails, ce qu'on constate, c'est que, au verset 29, on pourrait presque dire que Jacob se prend pour Dieu. Il lui dit, je t'en prie, dis-moi ton nom. Alors que c'est Dieu qui avait demandé à Jacob de dire son nom. Mais là, il se prend pour Dieu. Oui, tu m'as demandé mon nom, mais moi je te demande ton nom. Et non, Dieu refuse. Dieu ne répond pas. Alors bien sûr, on peut trouver plusieurs explications, mais l'une d'entre elles, en tout cas, c'est de montrer la différence fondamentale entre Dieu et les hommes. Dieu, c'est notre Père. Nous ne sommes pas son Père. Dieu peut donner un nouveau nom à Jacob. Mais Jacob, il ne peut même pas nommer Dieu quant à lui donner un autre nom. Vous voyez, au verset 25, il est montré que Dieu se fait homme pour lutter avec Jacob. Et c'est seulement au verset 29 qu'on aperçoit que c'est Dieu, s'aperçoit que c'est Dieu. Mais vous le voyez, en refusant de répondre, Dieu renvoie Jacob à son humanité imparfaite, à cet Israël qui est deux fois plus souvent Jacob qu'Israël, un homme dont les actions seront imparfaites, parce que nous le savons bien, mais qui a tout de même une mission d'agir dans le monde avec l'aide de Dieu, comme le montre son nouveau nom. Bon, me direz-vous, voilà une belle histoire. Ouais, je trouve que c'est une très belle histoire. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui? Ce sera donc ma conclusion sur laquelle je vais insister sur quatre points. Premier point, d'abord, loin de ressasser le passé, le message de la Bible est tourné vers l'avenir. Certains croient que le christianisme est culpabilisant. Pas du tout. Pas du tout, il suffit de lire la Bible. Dieu ne ressasse pas le passé de Jacob, ne lui reproche pas d'avoir volé, rien de tout cela. Le message biblique est tourné vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'action. Action qui n'est pas facile, c'est vrai. Et c'est mon deuxième point. Ça nous montre qu'une bénédiction, c'est une aide. C'est une aide dans des circonstances exceptionnelles, mais aussi dans la vie quotidienne de tous les jours. Vous voyez, ce n'est pas par hasard que notre culte va se terminer par une demande de bénédiction. Parce que c'est au moment où un temps privilégié d'écoute, comme nous le faisons en ce moment, eh bien, ça se termine. On a mis à part une heure du dimanche matin, et après, nous nous apprêtons justement à retourner dans le monde réel, dans cette société où nous avons besoin d'aide, parce que, à l'image de Jacob, nous ne sommes pas parfaits. Troisième point, l'histoire de la lutte entre Dieu et Jacob nous montre que pour obtenir une bénédiction, il faut le lui demander. Mais si, à l'image de Jacob, nous le lui demandons, nous pouvons compter sur lui, en particulier dans les moments difficiles, mais dans toute notre vie, comme d'ailleurs le disait le texte que nous avons lu tout à l'heure de Kierkegaard. Quatrième point, évidemment, ce n'est pas de la magie. Le christianisme, c'est le contraire de la magie. Dieu n'est pas un distributeur automatique pour n'importe quoi, comme par exemple réussir ses examens sans travailler. Qui n'en a pas rêvé? Mais bon, ça ne marche pas. Et donc, ce n'est pas de la magie. Dieu n'agit pas à notre place. Il a laissé Jacob réfléchir pendant 20 ans. Il n'est pas intervenu. C'était à Jacob d'agir. Mais nous pouvons compter sur lui pour agir dans le sens de sa volonté, comme Jacob a pu compter sur lui pour se réconcilier avec son frère, condition indispensable pour qu'il puisse remplir sa mission. Donc, c'est là peut-être qui est le point le plus important de notre passage. Être béni, c'est avoir une mission. Et notre mission, c'est un appel à être une bénédiction pour les autres. Dieu vient au secours de notre faiblesse quand nous demandons ce qui est dans la ligne de sa volonté. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Au total, notre texte nous dit qu'être béni, c'est être face à face avec Dieu. En effet, juste après avoir reçu la bénédiction de Dieu, le texte précise « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Autrement dit, j'ai été sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de son passé de menteur, de voleur, comme l'était Jacob devenu Israël, capable de dire la vérité et de devenir une bénédiction pour les autres, c'est-à-dire de remplir la mission que son père Isaac lui avait confiée. Façon de nous faire comprendre à nous aujourd'hui que pour faire face aux difficultés de la vie, nous avons besoin d'un face-à-face régulier avec Dieu. Une bénédiction divine, c'est donc une aide pour remplir une mission, tenter d'être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi, tout à l'heure, nous allons demander à Dieu sa bénédiction. Amen.